Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Jean-Paul Kaufmann, né en 1944, journaliste au Matin de Paris dès 1977, puis grand reporter à l'événement du jeudi. Enlevé à Beyrouth le 22 mai 1985 par le djihad islamiste avec son confrère Michel Seurat, il restera 3 ans otage avant d'être enfin libéré le 4 mai 1988. Michel Seurat, lui, sera mort durant sa captivité. Jean-Paul Kaufmann abandonne le journalisme pour se consacrer à l'écriture. Homme érudit, amoureux de la langue française, mais aussi de cigares et de vin de Bordeaux, il publie des romans, des essais, dont plusieurs couronnés de prix littéraires et non des moindres, tels le prix de littérature Paul Morand, remis par l'Académie française en 2002, ou le prix de la langue française, attribué en 2009 pour l'ensemble de son œuvre. Il faudra attendre 2007, soit près de 20 ans après les événements traumatiques qui auront changé le cours de son existence et de celle de ses proches, pour que l'auteur évoque dans La Maison du Retour, à sa manière toujours pudique, le long et douloureux réapprentissage de la vie au sortir de ces 3 années d'enfermement, d'incertitude, de côtoiement quotidien avec le chaos, la bestialité et la perspective de la mort. Je le cite. « Tout en moi était dévasté. Il fallait commencer à repeupler ce paysage de désolation, établir une nouvelle relation de confiance avec le monde. » La quête d'un lieu où se poser pour se retrouver le mènera vers cette maison dans les Landes, nommée Les Tilleuls. En même temps qu'il restaure Les Tilleuls, abandonnés depuis plusieurs années, Jean-Paul Kaufmann se reconstruit lentement. Maison-refuge où il peut vivre la solitude qui lui est nécessaire, redécouvrir comme au premier jour du commencement la vitalité de la nature, les sons, les odeurs, se tenir à distance des humains tout en réapprenant, avec l'aide de sa femme Joëlle, les moments chaleureux en famille et avec les amis. C'est dire la force du lien qui le lie à cet endroit.
Les Landes, la campagne normande, ou les îles Fortunées, il fallait bien se poser quelque part. Je n'ai pas choisi la maison dans la forêt, elle s'est proposée à moi, par défaut, à une époque confuse de mon existence. Choix hâtif auquel je suis lié à jamais. Un mois après la signature chez le notaire, j'ai convié ma famille et quelques amis dans les Landes. Ils vont faire la connaissance des tilleuls. C'est le nom de la propriété. J'aime l'absence d'affectation du substantif. Les tilleuls, parce que, tout simplement, le lieu en compte une dizaine de belles tailles, alignées près du chemin. Nous allons pique-niquer. Les voitures sont garées dans tous les sens, non loin de la maison. Un groupe parle de la fatwa que Khomeini vient de lancer contre Salman Rushdie. Ordre est donné aux musulmans du monde entier d'exécuter l'auteur des versets sataniques ainsi que ses éditeurs. Dans le brouhaha, je capte d'autres commentaires plus prosaïques. Pourquoi a-t-il choisi de s'enterrer ici? Ah, la baraque est immense. Comment va-t-il la meubler? Mon père commente, non sans quelque admiration. « Oh, pas mal, pas mal. Encore ta folie des grandeurs. » Dans l'ensemble, on s'explique mal ma nouvelle lubie, expression émanant de ma chère mère, qui se plaint d'emblée d'avoir les pieds gelés. J'ouvre la porte lentement. Un concert d'exclamations faussement admiratives, c'est le jeu, salue mon geste. On y voit goutte. L'électricité n'est pas encore branchée, mais il est de bon ton d'applaudir. J'écarte les volets, les pièces s'illuminent une par une, aussi brutalement que sous une impulsion électrique. Le sol carrelé des pièces est très froid. Je ne décèle pourtant aucune trace d'humidité. L'odeur sombre et épicée de la maison avec ses notes d'encens et de résine énerve agréablement le sens olfactif. Nous défilons dans les pièces. On fait valoir qu'il y aura du boulot. Ah, toute l'électricité est à refaire. Sans parler de la plomberie, s'afflige Urbain, mon ami architecte. Lorsque je lui ai montré les lieux il y a 2 semaines, j'ai eu très peur. La promesse de vente étant signée, que serait-il arrivé si son verdict avait été défavorable ? Tu ne pouvais pas trouver mieux, a-t-il décrété. Surtout, il ne faut toucher à rien, dit ma mère. Ah, oh, pardon, je pense qu'il faut tout foutre en l'air et repartir de zéro. Couplin. Repartir de zéro, ça n'existe pas. On hérite toujours d'un environnement, déclare doctement Urbain. Une âpre discussion s'engage entre conservateurs et démolisseurs. Je dois vite arrêter le débat, rappelant que je n'ai pas les moyens de détruire. Oh, tu as tort. Tu dois intimider ta baraque, imposer ton style, sinon elle t'échappera. Absolument pas. Tu dois l'apprivoiser, surtout ne pas la brusquer. Il parle de cette maison comme s'il s'agissait d'un être humain. C'est plutôt bon signe. Il y a comme toujours les partisans de la manière forte, les doux et le parti du juste milieu. Je suis moi-même partagée. J'ai tendance à faire confiance au bon sens des premiers propriétaires, probablement des paysans enrichis devenus des notables. Ils ont organisé la distribution des pièces autour d'un grand vestibule. La cuisine, très vaste, est accompagnée d'un office qu'on appelle ici la souillarde. Par principe, je suis contre tous les intégrismes. Celui du tout à l'ancienne me répugne. Une restauration inventive, dis-je. Le slogan, qui ne veut pas dire grand-chose, contente tout le monde. Avant le repas, je plante solennellement un magnolia près de la maison. Il est de taille modeste, mais présente déjà de belles feuilles vernissées. Geste fondateur. L'opération se révèle plus difficile que prévu. En creusant le trou, je me heurte à une croûte très résistante. Je vais apprendre à connaître ce tuf ferrugineux, l'alios, qu'il est nécessaire de briser avant de mettre en terre un jeune arbre ou un arbuste.
Les maisons vides ont la particularité de susciter un goût de la découverte qui remonte sans doute à l'enfance. Les anciens occupants s'évertuent à faire disparaître leurs souvenirs, mais ils n'effacent pas tout. Nous retrouvons un nombre incalculable d'objets cachés dans les placards ou oubliés dans le grenier. Une pendule désarticulée, au piédestal orné de festons et d'arabesques, une édition scolaire de Virgile, comportant des extraits des bucoliques et des géorgiques, un jeu de croquet déniché sous les combles, une assiette de faïence ébréchée, assortie de fleurs de chardon fabriquées à Samadé.
Pour surveiller la restauration de la maison, j'ai décidé de camper au tilleul. Joël vient chaque week-end dans les Landes après sa semaine de travail. Au début du printemps, je me suis installée au premier étage. L'eau est coupée. Heureusement, je dispose d'un puits. Chaque matin, je fais ma toilette avec un tuyau d'arrosage. Je grelotte. L'eau ferrugineuse a des reflets verts. Urbain m'assure qu'elle est potable. C'est lui qui a déniché l'entreprise générale Calasso, maçonnerie, plomberie, électricité, la meilleure du coin. 2 ouvriers travaillent chez moi.
Le grenier symbolise probablement pour moi un état incertain, un seuil intermédiaire angoissant entre l'oubli et la mort définitive. Les grains, les fruits, les souvenirs à la dérive n'y sont-ils pas conservés au sec? Sous les combles, rien n'est dans son élément. En même temps, tout est à sa place. Le grenier mélange tout. Aucune hiérarchie entre ces objets bons à jeter, mais pas encore au rebut. Cette indifférenciation m'a toujours paru inquiétante.
Jean-Paul Kaufmann reçoit la visite de M. Lapouillade, l'agent immobilier qui lui a fait découvrir les tilleuls. « Vous n'êtes pas un peu seul, non ? » dit-il avec prévenance. Je lui réponds que j'apprécie la solitude, mais pas l'isolement. J'aime faire retraite parce que je sais qu'au bout, il y a la compagnie et le partage. Je vois du monde, les deux maçons, ma femme me rejoint le week-end. De toute façon, je dois être là pour surveiller les travaux. Sur ce point, il marque un certain scepticisme, il n'a pas tort. À dire vrai, je ne surveille rien. Urbain est là, il pourvoit tout et je suis parfaitement inutile. Comment expliquer à Lapouillade que j'ai besoin d'être là, au commencement? Cette prise de possession, je dois la marquer par ma présence. Je crois beaucoup au geste inaugural, à l'acte fondateur. J'ai la faiblesse de penser que la qualité de mes relations avec cette maison va par la suite en dépendre. Surveillez les travaux, vous avez vu? Ils n'ont même pas attaqué le premier étage. Je vous le dis, vous n'aménagerez pas cet été. Mais si, vous verrez. D'ailleurs, je suis déjà installée. Je lui fais les honneurs du premier étage. J'ai établi la cuisine dans la pièce qui jouxte notre chambre à coucher. L'antique cuisinière à gaz ramenée de Sologne est placée près de la fenêtre. La vaisselle est disposée sur les tablettes d'une vieille bibliothèque. Quant à la table, c'est une porte de la maison appuyée sur des tréteaux. L'endroit est désordonné, mais accueillant et confortable. Cela sent la cuistance, il n'y a pas de hotte. Lapouillade peut identifier mon dernier repas, des pâtes au pesto. Longtemps, nous désignerons cette chambre sous le nom poétique de « Graillon ». Dans cette maison, ce sera toujours un casse-tête pour baptiser les autres pièces. La chambre du dessus? Oui, mais elles sont toutes au-dessus. Au-dessus du salon? Mais quel salon? Encore aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de solution à ce problème diabolique de nomination. Seule, l'alcôve du fond s'appelle la chambre d'Urbain, parce qu'il l'a occupée plusieurs fois lorsque sa bergerie était trop froide. Dans la pièce mitoyenne de la cuisine, j'ai abrité provisoirement mon vin. On comprendra que cette chambre, située à l'étage, ne saurait s'appeler aujourd'hui la cave. D'ailleurs, il n'y a pas de cave dans les Landes. Impossible d'y creuser un logement souterrain à cause de la nappe phréatique, trop proche de la surface du sol. Cette regrettable lacune me contrarie. Où vais-je entreposer mes précieux flacons? Voilà encore un problème que je n'ai pas résolu. « Vous vivez un moment rare, vous vous en apercevrez plus tard, » déclare Lapouillade. « L'important, c'est l'aménagement et le déménagement. Le reste n'est que du remplissage. »
Le chantier avance, les travaux du rez-de-chaussée sont terminés, les ouvriers montent à l'étage. L'aiguille de lumière s'agrandit chaque jour. Le rayon déborde et se déverse maintenant en gros bouillons dorés dans la chambre. L'écaille rougeâtre des tilleuls s'est changée en lamelles menues et amollies, presque cotonneuses. Les feuilles du magnolia que j'ai planté se sont épaissies. Elles ont à présent une consistance cuireuse. L'air exhale une subtile odeur de tourbe et de compote. Les notes spongieuses et acides proviennent des débris de feuilles mortes, pâtes légères noircies par la fermentation. Urbain a surgi, pressé, comme d'habitude, laissant en marche le moteur de sa voiture. Mes enfants ont verlanisé son nom en baignure. L'air grave, il annonce que je vais devoir déménager au rez-de-chaussée. C'est terminé, ils vont attaquer le premier. Devant mon étonnement, il me gronde. « Tu pourrais quand même t'intéresser au chantier. Tu ne t'es pas rendu compte qu'ils avaient achevé le rez-de-chaussée ? Je te signale que tu es censé être ici pour surveiller les travaux. » Il n'est pas dupe de mon alibi. Il n'a pas trop envie de chercher à comprendre les raisons de cette retraite, ce qui est sage de sa part, je ne les connais pas moi-même. « Il a besoin de solitude, » chuchote-t-on dans mon entourage, comme si je venais de réchapper d'une maladie fatale. C'est un peu le cas, avons-le. Pourquoi, en effet, ce besoin de s'installer en marge du temps, au cœur de la forêt, loin du monde ? Peut-être l'illusion que le spectacle de la nature et de la métamorphose universelle guérit de tout. Cependant, le bruit de la planète parvient jusqu'au tilleul. Ce matin, Castor et Pollux écoutaient un débat à la radio. Les ayatollahs iraniens sont dans l'incapacité de comprendre ce qu'est le roman. Ce doit être sur France Culture. Les lilas persans sont à présent tous fanés. Les deux maçons vont aider à déménager, déclare doucement Urbain comme s'il parlait à un enfant. Si tout se passe bien, dans un mois et demi, le chantier sera terminé. T'es content, non ? Un mois et demi ? Tu es sûr ? Ça a l'air de te paniquer. Tu es quand même bizarre. Ils avancent bien.
L'épineuse question des livres, jamais résolue, se pose à tout occidental alphabète autour de la cinquantaine, qui pendant toute une vie accumule des bouquins et répugne à s'en séparer. Les résidences secondaires sont justement faites pour cela. Desserrer la pression de cette force qui menace et rassure. Un moyen élégant de les mettre en maison de retraite. On leur fait de temps en autre une visite, on se persuade qu'on garde le contact. Au commencement de la vie active, quelques volumes sont rangés sur une étagère du salon ou de la chambre. À mesure que les années passent, ils prolifèrent insidieusement dans toutes les pièces. Tous les murs disparaissent, recouverts de rayonnage. Cet encombrement est parfois un sérieux motif de discorde dans un couple. Sans être bibliophobe, mais il peut le devenir, le conjoint voit l'espace familial se rétrécir et réclame un beau jour une solution énergique. Il l'appelle selon les cas un nettoyage, un écrémage, un tri. Quand il parle de coup de balai, c'est que la situation est grave. Dans le monde des bibliothécaires, cette opération de sélection se nomme désherbage. C'est un mot terrible, épouvantablement expressif. Désherber une bibliothèque, c'est enlever les ouvrages devenus inutiles. Selon quels critères ? Faut-il sarcler ? Le choix est laissé à la discrétion des bibliothécaires. Ce bon plaisir, ce droit de vie ou de mort sur les auteurs ont quelque chose de terrifiant et de nécessaire. Comme beaucoup de gros liseurs, j'ai longtemps entretenu un commerce névrotique avec les livres. Peur d'en manquer ? Cette hantise remonte à mes années de jeunesse où je ne lisais pas à ma faim. Journaliste, j'ai reçu des quintaux de services de presse sans que ma fringale disparaisse pour autant. Là, je désherbais des réceptions, la plupart des exemplaires étant dénués d'intérêt. Un jour, cette crainte est devenue réalité. J'ai dit combien j'avais été privé de livres pendant ma détention au Liban. Ils m'ont aussi sauvé. Quand je n'avais plus rien à lire, je me remémorais les lectures d'avant. Il ne s'agissait que d'une reconstitution. Évidemment, ces romans, je ne les savais pas par cœur. Les poèmes, oui, je pouvais en réciter encore un certain nombre. Pour le reste, je me livrais à une tentative de rétablissement ou de représentation d'une chose disparue. L'exercice m'absorbait à ce point que je parvenais pendant quelque temps à oublier ma condition. Cette gymnastique de la mémoire ne portait nullement sur l'histoire. Restituer l'intrigue du rouge et le noir, d'Eugénie Grandet ou de Madame Bovary n'était pas l'objectif que je poursuivais. Recréer le souvenir d'une lecture, reconnaître en moi la trace qui en subsistait, retrouver l'imprégnation, tel était le but que je m'étais assigné. Donner une signification à ce que je lisais était accessoire. C'était l'infusion du texte que je recherchais, non son interprétation. Après ma libération, j'ai vite constaté, avec un serrement de cœur, que mon rapport au livre avait radicalement changé. Quelques bouquins m'étaient parvenus dans ma geôle. Jamais je n'ai dévoré avec autant d'intensité. J'oubliais la cellule. Enfoui au fond de ma lecture, produisant en moi-même un autre texte. Jouissance rare, elle équivalait à une remise en liberté provisoire. L'homme libre ne peut pas lire avec une telle concentration. Il est sans cesse distrait, éparpillé par le plein exercice de sa liberté. Il corne un livre à un passage donné avant de se coucher, il le reprendra le lendemain. Entre-temps, il est allé au travail, il a bavardé, mangé, il s'est diverti. Même un bouquin, englouti d'une seule traite, en vacances, dans la solitude d'une chambre, n'absorbe pas complètement le lecteur. Une certaine disponibilité au paysage, au silence, le sentiment de dissipation que procure l'inertie estivale ou la vacuité, bref, l'absence de contrainte n'égalera jamais la tension d'esprit que crée l'enfermement. La liberté nous émiette. Enchaîné, j'ai connu à la lueur d'une bougie l'adhésion absolue au texte, la fusion intégrale, au signe qui le composait. La question du sens, je le répète, était secondaire. Cet acquiescement total, je ne parviens pas à le retrouver depuis ma délivrance. Symptôme de la dislocation que je redoute tant. La librairie, comme disait Montaigne, semble avoir perdu de cette impulsion vitale et de cette consistance qui m'ont permis de résister. Je le constate avec tristesse. J'ouvre désormais les volumes d'un geste machinal et les parcours mollement. Manque cette vigilance impérative élémentaire qui m'a prémunie du désespoir. Ma pratique des géorgiques et son aspect gratuit s'inscrivent sans doute dans ce relâchement. Inutile de préciser que je n'ai nulle envie de revivre mon épreuve pour retrouver l'acuité perdue. Cette appétence reviendra-t-elle un jour? J'ai été libérée il y a 9 mois, j'ai 45 ans. Parfois, je me dis que j'en ai trop vu. Peut-être ai-je déjà abattu toutes mes cartes. Ce n'est pas que je me sente vieux. Au contraire, ce retour est une seconde naissance. Non, j'ai l'impression d'avoir, en 3 années, épuisé une vie d'homme. J'ai vécu trop tôt ma vieillesse, expérimentant tous les tourments et la hantise de la faim qui accompagne cet âge. Tirant les conséquences de mon anorexie, j'ai décidé de déménager dans les Landes tous les livres de Paris. Après tout, je ne cherche pas à me débarrasser d'eux puisque je vis au Tilleul. Un peu hypocrite comme comportement. Une façon d'atténuer les décisions radicales. Le plus étrange est que je n'ai rien décidé. Rompre avec l'ordre ancien, c'est ainsi que je désigne l'époque d'avant mon enlèvement, s'est imposé naturellement. Tout en moi était dévasté. Il fallait commencer à repeupler ce paysage de désolation, établir une nouvelle relation de confiance avec le monde.
Longue journée de lecture à l'ombre des 2 platanes. Je sens leur présence bienveillante, commençant à saisir la musique secrète des feuilles qui viennent de se dégager des bourgeons. Sous la frondaison, je guette les silences, la cadence, les motifs, les gammes par ton. Chaque platane possède son chant propre et son rythme. La brise peut murmurer au sommet de l'un et négliger l'autre. Pourtant, ils se touchent et s'enchevêtrent encore plus étroitement depuis la feuillaison. Parfois, une clarté imprévue anime violemment leur âme végétative. Les branches se soulèvent, le houppier se torsade. On dirait que les deux platanes veulent extérioriser quelque chose, mais quoi ? Les membres brassent l'air. Il y a une impuissance pathétique dans cette convulsion désespérée. « Ça y est, me dis-je, un événement se prépare. » L'un d'eux balbutie « C'est sûr, il veut échanger. » Mais la tentative dure peu. La ramure se balance avec hésitation. Le tronc et les branches maîtresses essaient encore un mouvement qui ressemble à un dandinement. L'effort a été vain. Le vieil arbre se recroqueville, un peu honteux. Ce sera pour une autre fois. Les lumières de fin d'après-midi sont propres à ces bredouillements toujours avortés. La colonne vertébrale du fût s'anime, impulsant à la cage thoracique l'immense frémissant foliaire. Cette transe et le découragement à transformer le principe vital qui s'ensuit me bouleverse au plus haut point. De quoi peuvent bien m'aviser mes deux platanes aux gros pieds ongulés ? Je n'attends rien. Je réapprends le monde en éplant, comme un enfant, nuages, arbres, ciel, vent. C'est si agréable d'annonner ces noms et de savourer leur pouvoir. Je suis dans un état de confiance absolue avec cette maison et cet aérial. Il est bien connu que l'homme, seul, n'a pas de désir, il n'a que des besoins.
Jean-Paul Kaufmann fait visiter le chantier à sa voisine. Nous nous frayons un chemin à travers un assemblage de fils électriques, de bagues de serrage, de tubes plastiques, de laine de verre. On a beau m'annoncer la fin imminente des travaux, j'ai toujours du mal à en apercevoir le point final. C'est peut-être que vous n'avez pas envie que cela se termine. C'est bizarre, tout le monde me dit cela. Ça crève les yeux. On vous sent parfaitement à l'aise au milieu de ce désordre. Cette solitude qui est recherchée, mais non pas subie, cette cohabitation avec les deux ouvriers, tout cela vous plaît trop. Chacun est dans son coin. Vous êtes isolé, mais pas tout à fait. Un peu esselé, mais votre femme vient vous voir le week-end. Une manière de tout contrôler. Je suis sûre que vous vous prenez parfois pour Robinson Crusoe, un rêve de vie naturelle au milieu des pins. Un Robinson Crusoe à solitude variable. Étrange, ce qu'elle vient de dire. C'est à la fois faux et terriblement juste. Je n'ai jamais pris les tilleuls pour l'île de Robinson. Mais pendant ma détention, il m'arrivait de m'identifier au héros de Daniel Defoe. Je me reconnaissais dans ce terrible naufrage, cette vie sauvée in extremis, cette absence d'un autrui bienveillant. Je me sentais comme lui démuni. Par l'exercice quotidien du souvenir et de la méditation, j'avais fini par reconstituer un univers civilisé, ressemblant à celui du héros de Defoe. Du moins me l'imaginais-je ainsi. Il est nécessaire de se duper pour survivre. Manquer d'illusions, c'est mourir. Je me prenais aussi pour le perroquet de Robinson. Couler sans sortir de peu, ce que j'ai pu me répéter. On n'en finit pas de rabâcher les mêmes phrases. Et qui jouait le rôle de vendredi ? Moi encore. N'avais-je pas réussi à m'inventer une compagnie, un autre moi-même? Comme Robinson d'ailleurs, qui avait fabriqué ce personnage du bon sauvage se prêtant à toutes ses fantaisies.
Quelqu'un tambourine à ma fenêtre. C'est Urbain. L'air réjoui et pressé de bénure est de mauvais augure. Je sais qu'il vient m'annoncer la nouvelle que je redoute. La fin des travaux. J'ai beau m'y être préparé, cet épilogue sonne comme un adieu ou une rupture. Je vais rompre non pas avec un passé, mais avec un sursis. Le répit qui m'a été accordé avec cette restauration, j'aurais voulu le prolonger indéfiniment. Urbain est là pour annoncer aux condamnés le rejet de la grâce. Je m'habille à la hâte. Je songe à ce qu'il va dire dans un instant. Il lissera sa moustache et déclarera avec une certaine solennité « Tu vas être content. » « Je suis heureux de te voir, Urbain, » fais-je hypocritement, alors. « Alors quoi ? Eh bien, tu vas être content. » « C'est fini. Fini. Tu entends ? Maintenant, tu peux prendre possession de ta maison. »« Possession ? Je n'ai pas l'instinct de propriété. » « Intéressant. Sans doute un de ces paradoxes plus ou moins philosophiques dont tu as le secret. Monsieur se veut un amateur, il ne se plaît que dans le provisoire. Tu n'es qu'un dilettante. Ah, j'aimerais bien. C'est tout un art. Prendre au sérieux la musique, le vin, les cigares, sans se prendre soi-même au sérieux, il faut sans doute plus qu'une vie pour y parvenir. Je ne vais pas lui expliquer que j'ai appris à attendre et surtout à différer par nécessité. J'espérais que le sort me soit moins hostile. Je suis en effet devenu un amateur d'espérance. Le jeu doit se pratiquer sans appuyer, presque à la légère. L'espérance reste au fond de la boîte de Pandore. Après que tous les maux se sont répandus sur la terre, il ne faut surtout pas la brusquer. Comme on le sait, l'amateur sait prendre son temps. J'ai abusé de ce privilège et acquis sans doute de mauvaises habitudes. Le définitif me perturbe.
Enfin, pouvoir écrire l'indicible. Dans ce passage, Jean-Paul Kaufmann évoque l'écriture d'un ouvrage sur le vin qui a pour titre « Voyage à Bordeaux ». Jamais je n'ai écrit aussi aisément. D'avoir été privé de papier et de crayon pendant ma captivité m'a franchi. Les phrases coulent avec une évidence inhabituelle. Ces tourments et cette détresse accumulées pendant tant d'années sans qu'il ait été possible de les désigner, se déverse soudainement. Effusion sans violence, débordement contenu, un peu comme on défait le lien d'un fagot. Le faisceau de menu bois ou de branches se détache sans pour autant aller dans tous les sens. Le vin n'est qu'un prétexte. J'ai peur de déclamer, de prendre la pause à l'aide de ces mots d'apparat attachés au genre tragique. Ils viennent si facilement sous la plume. J'ai donc rusé, d'ailleurs je n'avais pas le choix. Je suis incapable pour l'instant de soutenir le choc du cataclysme passé, de lui faire barrage en le décrivant. Cette impuissance à relater l'innommable m'a conduit à user de la symbolique du vin. Ce procédé m'est venu naturellement à l'esprit. Je me suis conformée à l'éthique de l'amateur qui sait considérer avec distance, sans gravité excessive, les choses, les hommes et lui-même. Tous les signes auxquels renvoie le vin représentent la part qui m'a fait le plus défaut pendant cette épreuve. Une relation lumineuse au monde faite de complexité et d'estime de l'autre. Le vin est l'expression d'une société débrutalisée, Son rapport à la nature et à autrui est policé. J'ai vécu dans un monde d'exclusion, en proie à l'hystérie et au chaos. Pour autant, je n'ai pas la conscience victimaire. Le vin me permet sans doute de ne pas trop succomber à l'esprit de sérieux. Que pèse ce que j'ai vécu au regard d'un cru classé de Bordeaux, le poids mort de la dérision. Et pourtant, ce n'est pas une charge inutile. Comme le dit le personnage de Nel dans « Fin de partie » de Beckett, « Rien n'est plus drôle que le malheur. Si, si, c'est la chose la plus comique au monde. » Je découvre que, par sa nature spirituelle et matérielle, le vin me permet de sortir du cauchemar de l'histoire, de déchiffrer certaines choses cachées. L'exorcisme, la catharsis, je n'y crois guère. Désigner la blessure ne contribue pas pour autant à la cicatriser. Je suis même persuadée du contraire. La nomination met les chairs à vif. Mais le besoin d'élucidation est plus fort que la menace de la plaie ravivée. Sans l'aura bienfaisante de cette maison, me serais-je lancée dans une pareille entreprise? Les tilleuls révèlent en moi un monde que je n'avais pas entrevu depuis mon retour. La présence émolliante de la forêt landaise, la torpeur de l'été, une qualité de silence et de vacuité, le temps qui dessert son carcan, tout m'invite à une sorte de reconstitution. À l'ombre des pins qui renvoient leur odeur crissante, je deviens archéologue de mon propre passé. Grâce au vin, la seule matière vivante qui devient délectable en vieillissant, je remonte le sens interdit du temps. Un temps qui, jusqu'à présent, n'a cessé de se dérober et qui pourtant me hante. Peu à peu, je parviens à restituer ce qui a été détruit, pressentant que cet instant privilégié, la fenêtre de tir, comme on dit aujourd'hui, sera très bref.
Le lien profond qui m'attachait au livre est bien rompu. Je tiens cette cassure pour une véritable infirmité. C'est au tilleul, plus qu'ailleurs, que j'ai pris conscience de cette malédiction. Je suis entourée de livres et je n'ai pas faim. Je picore, j'avale, je ne finis pas. Je songe souvent à Borges qui, devenu aveugle, continuait à acheter des livres. Je ne suis plus en état de lire normalement. Mais quelle est la norme dans ce domaine? Une application continue ou tout au moins raisonnable, une façon de se laisser porter par le texte, d'adhérer à la convention des personnages et du récit? Cet abandon n'agit plus ou agit mal. C'est la particularité de l'infirme de n'être atteint que partiellement. Parfois, le pacte passé avec l'écrit fonctionne, mais ce miracle ne se produit que très rarement. J'ai longtemps pensé que j'exagérais cette nouvelle inaptitude, mais après l'expérience que j'ai faite, une relecture systématique de ma bibliothèque libanaise, j'en doute. En principe, ces bouquins-là étaient différents. Ils avaient droit à un traitement particulier. Ne m'avaient-ils pas arraché à ma condition misérable? Ne m'avaient-ils pas soustrait au moins un temps à l'adversité? Grâce à eux, j'avais échappé à la malédiction du prisonnier incertain de son sort. La porte de la cellule qui s'ouvre peut signifier la délivrance ou la mort. Il fallut se rendre à l'évidence. Je ne subissais plus l'ensorcellement, car au plus profond du cul de basse-fosse, la lecture opérait à la manière d'un sortilège. J'ai agité toutes sortes d'hypothèses pour connaître les raisons de ce désenchantement. Il existe certainement un rapport entre le silence et la lecture. Quand je lisais, le silence de ma cellule cessait d'être menaçant. Il devenait prometteur, vivant. Entre le livre et ce mutisme se créait une complicité exceptionnelle. Un don de l'esprit. Ou peut-être une présence réelle, comme dit George Steiner, qui soutient que, lorsque nous sommes mis en face d'un texte, c'est un pari qui porte de fait sur la transcendance. Ces histoires que j'ai vécues par procuration m'ont pourtant tiré d'affaire. Ce goût profond de la lecture, qui était aussi une névrose, s'est déplacé ailleurs. À présent, je plante des arbres avec le fanatisme que je manifestais autrefois pour les livres. Mes proches s'inquiètent de cette nouvelle toccade. Ce déplacement de l'œuvre écrite vers les végétaux n'est apparemment pas de même nature. À moins que je ne recherche dans les arbres la présence perdue. Devant mon Érial, j'éprouve le même plaisir qu'autrefois devant ma bibliothèque. Cette dernière est désherbée régulièrement. Les livres éliminés sont entreposés dans des caisses sous l'escalier. Les visiteurs n'ont qu'à y puiser.
Réussir son retour est pour le rescapé presque aussi difficile que de tenir pendant l'épreuve. Dans le trou, il résiste. Il n'a pas le choix. Hors du trou, il a le choix. Tous les choix. Il est maître du jeu. Problème de taille, le jeu est trop ouvert, béant pour celui qui vient de s'extraire d'une existence réduite à sa plus simple expression. Par où commencer ? C'est là que les ennuis commencent. Mais ce ne sont que des ennuis, pas des tragédies.
Cette maison m'a-t-elle guéri ? Je pense qu'elle m'a simplement décontaminée, débarrassée de mauvais ferments tels que le ressentiment, la soif de vengeance, la passivité, le goût de la dévastation. Sans parler de cet esprit de lassitude qui a envahi le siècle. Cette maison m'a défripé le cerveau. Au tilleul, j'ai retrouvé ma mémoire sensitive. Tout prisonnier est un prisonnier de la perception. Il est étroitement enfermé dans un univers sensoriel qui le tourmente sans cesse et avive le sentiment de sa condition. Impossible de s'extraire de la tache de moisissure sur le mur. Elle devient un motif si obsédant que cet assujettissement ne laisse aucun répit à l'esprit. Il est esclave du moindre son qu'il lui faut identifier à tout prix. Les miasmes si caractéristiques de la prison s'imposent tyranniquement à son odorat et l'isolent un peu plus. L'olfactif, logé dans la partie la plus archaïque du cerveau, est, hélas, le sens qui fonctionne le mieux dans une telle situation. Quant au toucher, il est mortifié par la matière nue, la brutalité du béton et du métal. Ses sens, trop impressionnables, réveille dans la douleur les émotions du passé. Il favorise surtout une pénétration plus lancinante du présent. Être enfermé, c'est déverrouiller les cinq sens. Ils sont libres, ils s'emballent, ils se dérèglent. Constamment en alerte, le prisonnier ne sait plus où il est. Dans ma campagne, il m'a fallu accomplir le chemin inverse. Apprendre à recueillir dans la sérénité les sensations en provenance du monde extérieur. En fait, je n'ai pas eu besoin d'apprendre ni de m'imposer des règles de conduite. Je réalise aujourd'hui combien cette improvisation me fut bénéfique. Cette totale absence de méthode porte peut-être un nom, l'instinct vital. Ce principe opportuniste et navigateur qui empêche le naufrage.
Toute demeure possède une sorte d'ADN aromatique. C'est sa marque propre, elle ne ressemble à aucune autre. J'aime les effluves de boîtes à cigares et de fruits secs qui émanent du rez-de-chaussée, avec un fond d'odeur de vieilles bottes, de fagots et de cheminées. Au printemps et jusqu'au milieu de l'automne, s'ajoute le parfum des roses que les chevreuils ont épargnées. C'est un bouquet lourd, presque liquoreux en même temps qu'un peu citronné. Cela me fait penser à l'arôme velouté et un peu acide des vins issus de Gewürztraminer. Quand je reviens au tilleul après une longue absence, une fois la porte ouverte, j'entre presque sournoisement dans la maison, comme si je voulais la surprendre pour savoir comment elle a supporté l'éloignement. C'est devenu une sorte de rituel. Il me faut parcourir rapidement les pièces sombres, vaguement irradiées par la lumière de la porte d'entrée et la fente des volets. Dans ce saisissement, c'est comme si je la découvrais pendant son sommeil, je me dis Tant de choses sont survenues depuis que je l'ai quittée, et elle est toujours là, à m'attendre. En voyage, je ne cesse de penser à elle. De même, c'est avec un serrement de cœur qui ressemble à de la souffrance que je m'en vais des tilleuls. Il se produit alors un flottement, une sorte d'enrayement dans mon comportement. L'angoisse m'étreint. C'est décidé, je reste. Mais non, il faut partir.
Seize années se sont écoulées entre la découverte des tilleuls et l'écriture de ce livre hors du commun, où l'érudition, l'élévation de la pensée, le questionnement sur le sens de la vie, le rapport au monde sont toujours présents. Enfin, si vous souhaitez le découvrir dans son intégralité, vous vous régalerez à la lecture de descriptions savoureuses des personnages rencontrés autour de la restauration de la maison. À commencer par l'agent immobilier, la Pouillade, qu'il surnomme Balloon. D'Urbain, son ami architecte, des deux ouvriers apiculteurs à leur moment perdu, baptisés par lui Castor et Pollux, ou les Diascures, en référence au texte antique, ou encore de son voisin, amateur éclairé de vin fameux qui deviendra un ami. Bonne lecture. Aujourd'hui, les textes étaient lus par Marie, Monique et Anne. Les passages musicaux étaient extraits de « I can't believe that you are love with me » de Kate Charrett. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez